Bonjour à tous, bienvenue à ce direct. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un, puis je me suis dit, quoi de mieux que de parler de lois qui sont inquiétantes, des lois fédérales, avec mon ancien collègue de Libre Média, Julien Garon-Carrier. Salut Julien.
Bonjour à tous. Salut tes auditeurs et merci de m'avoir invité sur ton émission, Héloïse.
Ça fait grand plaisir. Je vais te mettre en contexte un peu. On s'est rencontrés pendant les années de COVID. Assez tôt, tu m'avais contacté sur X. Et on est resté en contact. À ce moment-là, tu étais journaliste pour QMI, Québécois en Média. Et tu commençais à en avoir un petit peu ta claque. Puis tu as fini par quitter. Tu es venu nous rejoindre dans l'équipe qui a parti Libre Média. Tu étais notre rédacteur en chef au début.
Exactement. En fait, on a cofondé Libre Média avant que ce soit Jérôme Blanchet-Gravel qui reprenne ça, puis que ce soit une entreprise privée. Ça a été une coopérative avec cinq cofondateurs dont je faisais partie et toi-même.
Exactement. Puis ça a été un bonheur de faire ce projet-là avec toi. On est resté en contact. On a chacun parti nos projets. Finalement, tu es rendu avec ton média indépendant qui s'appelle Indocile Média. Je trouve que c'est un mot qui va très bien. Peux-tu nous en parler un petit peu?
Ben oui, contrairement à l'ancienne ministre de la Sécurité publique qui voulait que pendant la pandémie, les gens soient dociles. Moi, je ne suis pas. Je suis pas très docile. Non. Je suis indocile. Ben, Indocile Média, c'est pas compliqué. Là. C'est un média indépendant qui met la vérité au cœur de l'information. T'sais. C'est-à-dire que moi, je considère que les médias de masse effectuent une propagande quotidienne dans leur transmission de l'information et des nouvelles. Pas forcément sur des nouvelles régionales ou locales, mais tu sais, tout ce qui rentre sur les fils de presse, l'AFP, les grandes nouvelles internationales, la politique américaine, etc. Il y a beaucoup de propagande, guerre en Ukraine, Palestine, Israël, etc. Tu sais, Indocile Média, en fait, là, c'est de rétablir la probité dans le dialogue public. Ça peut paraître présomptueux, mais faut comprendre que la propagande, c'est quand même quelque chose d'insidieux. Tu sais, c'est quelque chose qui est, je dirais, qui se vit au quotidien, mais dont les gens ne se rendent pas compte. Et c'est pour ça que moi, j'ai parti mon média indépendant avec des sections dans le média qui peuvent, sortir là, de ce que les gens sont habitués de connaître comme section politique ou whatever. Là. Non. Tu sais, moi, j'ai une section qui s'intitule « Globaliste versus réaliste ». Tu sais, c'est parce que je pense que dans le paradigme de la géopolitique mondiale, il y a des factions qui s'affrontent. Mais tu sais, t'entendras pas parler de ça dans les médias de masse traditionnels. Tu sais.
C'est pour ça que ça permet d'y aller de ton opinion aussi. Donc, c'est pas du journalisme neutre. Tu y vas plus d'un ton éditorialiste?
Ça dépend, ben oui. C'est-à-dire que j'ai une section éditoriale, j'ai une section enquête où ça va être plus factuel. J'ai globaliste versus réaliste. Là, je me permets de donner mon opinion, en effet. Mais dans la section actualité, généralement, c'est des nouvelles qui sont assez neutres.
OK, excellent. Ben, j'invite tout le monde à aller faire un tour. Tu peux-tu redonner le lien vers... c'est indocilemedia.com, c'est ça?
That's it, c'est ça.
Très simple. Bon, ben écoute, aujourd'hui, on va se parler, Julien, de projet de loi qui inquiète les gens en ce moment. On en a un petit peu parlé, Main Street, du Trisac a reçu un chroniqueur pour parler de la loi C9 la semaine dernière. Mais sinon, on en parle très peu dans les médias traditionnels, sans grande surprise. On a parlé beaucoup de Trump et du Tylenol. Pas que c'est pas important, mais pendant ce temps-là, pendant qu'on a du bruit là-dessus, il y a des lois qui sont en vitesse grand V. Juste avant qu'on rentre en onde, tu me croyais pas qu'elle était rendue en deuxième lecture, c'est neuf, parce qu'elle a été déposée le 19 septembre et elle est déjà en deuxième lecture, donc le 24 septembre. Donc c'est très rapide, d'accord. C'est rare que c'est rapide comme ça.
Ouais. Mais je voudrais juste faire un petit commentaire sur ce que tu viens de dire de prime abord avant d'entrer d'emblée dans C9. C'est-à-dire que, tu sais, on parlait de la propagande, il y a juste deux minutes de ça dans ma présentation, mais ce qui fait partie aussi de la propagande, c'est ce qu'on ne dit pas. C'est-à-dire que ce que les médias ne passent sous silence est tout autant important que ce qu'ils vont mettre de l'avant. Donc là, on voit que dans les médias de masse québécois, en fait, il y a une volonté de passer sous silence certains projets de loi qui sont inquiétants. C'est deux, le devoir en a parlé, simplement parce qu'il voulait défendre le droit des immigrants. Mais sinon, tu sais, ils n'ont pas abordé les questions de liberté individuelle. Après ça, personne ne parle de C8. Puis C9, il y a uniquement Cube Radio qui en a parlé. Et moi, je considère que Cube Radio ont beaucoup plus une affiliation idéologique qui est proche des médias indépendants que des médias de masse traditionnels. C'est-à-dire que l'Empire québécois vise à atteindre tous les publics. Tu sais, ils veulent le petit boomer docile avec TVA Nouvelles. Ils veulent le quidam du quotidien avec le Journal de Montréal, Journal de Québec. Puis avec Cube Radio, tu vois, ils visent un peu les gens qui ont des opinions controversées, des opinions qui vont à l'encontre de la majorité. Donc, Cube Radio se rapproche un peu plus. Puis c'est vraiment dans une optique de marché qu'ils font ça. Cube Radio se rapproche un peu plus des médias indépendants. Donc oui, ils en ont parlé de C9, puis tant mieux qu'ils en aient parlé, parce que c'est important qu'on mette de l'avant ces dérives-là. Ces dérives-là
oui, puis ça a fait jaser quand même beaucoup. Ça a été très viral, moi, cette vidéo-là, l'extrait, je l'ai vu, là, passer à toutes les sauces, plein de gens en avaient fait des montages, des extraits, donc il y a, y a vraiment une soif, tu sais, ce genre de nouvelles sur X qui va buzzer, là, tu sais, on va parler de ce genre de choses-là. Ce qui est dommage, c'est que ça fait une espèce de chambre d'écho parce que les gens qui sont sur X sont pas nécessairement sur Facebook où la majorité est encore.
Exactement, c'est deux mondes parallèles, en fait. Les gens qui consomment les médias traditionnels et les gens qui s'informent plus sur les réseaux sociaux. Tout à fait.
C'est ça. Puis on s'en va, en tout cas, bref, on s'en va vers ça, là. C'est ça, les médias traditionnels ne se portent pas particulièrement bien. Alors, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il y a vraiment... Les gens vont finir par aller chercher de l'information crédible à des bonnes sources en ligne. Donc, ma mission, puis je sais que c'est la tienne aussi, c'est de fournir ce type d'information-là aux gens qui nous suivent. D'ailleurs, pour ceux qui êtes en direct, je sais pas pourquoi j'arrive pas à voir le chat, mais vous pouvez, si vous voulez supporter, vous me demandez souvent comment supporter ma chaîne, vous savez, juste faire un pouce par en haut, un commentaire, repartager, ce genre de choses-là aide énormément dans l'algorithme, donc c'est pas grand-chose à faire, vous n'avez pas besoin de débourser ou sortir votre carte de crédit. Si vous voulez aussi supporter mon travail, vous pouvez aller dans ma boutique sur helloveutsavoir.com/boutique, où j'ai décidé de m'associer avec des produits que moi j'utilise, dont celui que je porte au poignet, qui est ce fameux bracelet qui émet un champ électromagnétique pulsé, j'en ai parlé dernièrement, j'ai parlé avec l'inventeur, ça soutient votre santé, j'ai plein de produits que moi j'aime. Alors, c'est une façon non seulement de soutenir votre propre santé, mais de soutenir mon travail. Et on va maintenant sauter dans le vif du sujet. On va commencer avec C9 parce que c'est la plus récente. Tu voulais faire une espèce de topo. Je te laisse aller. Explique-nous un peu de quoi on parle aujourd'hui. Puis après, on va rentrer plus dans les détails.
En fait, Héloïse, ce qu'on voit est absolument inquiétant. C'est que le gouvernement du Canada, à l'heure actuelle, avec le Parti libéral, qui est un gouvernement minoritaire, soit dit en passant, s'attarde énormément à adopter des lois qui vont encadrer les communications numériques, qui vont autoriser ou pénaliser les communications numériques et, par le fait même aussi, le discours. Le discours, ce qui est permis de dire, ce qui est permis de ne pas dire, à travers notamment la loi C9 qui porte une atteinte directe à la liberté d'expression par l'entremise du discours haineux. Et tout ça est absolument insidieux. J'ai écrit des articles sur chacune de ces lois-là sur mon site web, c'est-à-dire C2, C8, C9. Et C9 est particulièrement insidieuse parce que il y a plusieurs articles dans la loi, puis d'emblée, quand la loi débute, on mentionne qu'il est interdit d'arborer une croix gammée ainsi que les doubles runes de la victoire nazie. Tu sais, donc là, je veux dire, qui est contre ça? Personne n'est contre ça. Donc, il y a une stratégie derrière ça, c'est-à-dire que si vous votez contre cette loi-là au Parlement, en fait, vous êtes pour les croix nazies, vous êtes pour la double rune de la victoire. Donc, le gouvernement utilise des tactiques comme ça pour arriver à ses fins, mais en faisant, s'immisçant dans le projet de loi, en immisçant des clauses qui sont complètement délétères pour la liberté d'expression. Par exemple, on parle de la définition du mot « haine ». Ben, la définition du mot « haine », si je m'en vais dans mon article, je vais vous la lire, ça sera pas très long. OK, il faut juste que je me change de page. Come on. OK. Es-tu sur C9? Oui. OK. Bon. Donc, on donne la définition du mot « haine » comme étant un sentiment plus fort que le dédain ou l'aversion et comportant de la détestation ou du dénigrement. C'est important, ça, de comprendre que le dénigrement, en fait, n'était pas dans la définition du mot « haine » parce que le discours haineux est encadré par le code criminel à l'heure actuelle. Donc, pourquoi maintenant, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a une nécessité de revenir définir ce qu'est un discours haineux? Je le sais pas, mais en fait, le gouvernement libéral, lui, le sait, c'est parce qu'il y a un agenda derrière ça. Il veut arriver à ses fins. Ses fins étant d'encadrer le discours haineux de manière plus restrictive. OK? Et le dénigrement, ça peut être une notion qui est absolument subjective. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle où on vit dans un monde où l'idéologie woke, la gauche culturelle, est assez forte, même si aux États-Unis, la droite, avec l'administration Trump, peut remporter certaines victoires sur la guerre culturelle. Il reste néanmoins que la gauche culturelle, le wokisme, a intégré plusieurs sphères de la société avec le gouvernement libéral de Justin Trudeau, les universités, etc. Et c'est pas parti pour changer sous l'administration Carney. Donc, le dénigrement, en fait, en quoi ça consiste? Est-ce que c'est mon sentiment subjectif d'avoir été atteint par des propos blessants? Je sais pas, tu sais. Donc, c'est sûr que là, la loi encadre ça, mais il va y avoir une interprétation de la part du juge qui va faire en sorte aussi que cette interprétation-là du dénigrement peut être vaste. Et donc, on va peut-être trouver du monde qui se font, en fait, arrêter pour des posts en ligne parce que c'est associé à du dénigrement pouvant être considéré comme du discours haineux. C'est vers ça que ça s'en va, la loi C9. Et donc ça, c'est premier écueil avec la loi C9, la définition du mot haine. Deuxième écueil, les peines sont ridiculement élevées. Ridiculement élevées. Écoute, quand on regarde les peines qui peuvent être imposées avec C9, on parle d'infractions variant entre 5 ans, 10 ans, 14 ans, jusqu'à perpétuité. Mais aussi, ça c'est le deuxième écueil, mais le troisième, c'est que C9 peut être, c'est-à-dire que les peines associées à C9 peuvent être intégrées à n'importe quelle autre loi fédérale. Donc, ça devient comme un facteur aggravant. Par exemple, vous commettez une infraction qui n'a rien à voir avec un geste haineux. Mais étant donné que cette infraction-là a été commise envers quelqu'un qui est, c'est pas moi, une ethnie... un immigrant...
un musulman.
Un musulman, bon, par exemple. Puis que cette infraction-là commise envers cette personne-là peut être associée à un geste haineux, sans que ce soit volontairement ça. Je sais pas, moi... par exemple, accrochage en voiture, tu sors du char, t'insultes la personne, puis tu dis...
Ça donne que c'est un noir, ben là, t'es raciste.
Puis là, tu dis, tu sais... Vous puis toute votre race, là, vous retournez dans votre pays. T'sais, on s'entend, c'est pas correct. Personne veut avoir ce type de comportement civique-là. Mais là, tout d'un coup, pour avoir fait ça, tu es associé à du discours, du dénigrement et du discours haineux. Je pousse la chose un peu, là, tu sais. Ça veut pas dire que ça va aller jusque-là, mais ça fait partie des possibilités. C'est-à-dire que la loi C9 peut être interprétée aussi par l'entremise de toutes les autres lois fédérales. Donc là, ça devient comme un facteur aggravant. Et c'est pour ça qu'on a des peines qui sont de 5, 10, 14 ans et à perpétuité. Puis finalement, le quatrième écueil que j'ai perçu dans cette loi-là, c'est que ça l'abroge la nécessité de faire approuver la poursuite par le ministre de la Justice du Canada. Donc, généralement, le ministre de la Justice du Canada, c'est le procureur général. Pour les poursuites en... qui comporte des cas de gestes haineux, de discours haineux, habituellement, ça prenait l'approbation du procureur général du Canada. Maintenant, ça ne le prendra plus. Donc, juste un procureur de la Couronne va pouvoir se saisir d'un dossier si la police lui soumet des preuves sans l'approbation du ministre de la Justice. Donc, ce que ça fait, c'est que ça facilite les poursuites dans cette optique-là, avec cette loi-là. Donc, on va voir beaucoup plus de monde dorénavant, quand cette loi-là va être adoptée, se faire condamner pour des discours haineux ou pour des gestes haineux.
Des procureurs de la Couronne, pour l'information, là, il y en a environ 4000 au Canada. Donc, c'est vraiment, on ouvre la porte à beaucoup, beaucoup de poursuites aux criminels, alors qu'avant, il y avait comme une procédure qui était plus compliquée, comme tu viens de dire. Et c'est sûr qu'il y en a là-dedans qui peuvent avoir des biais idéologiques. Alors là, on peut comme tomber, parce que tu sais, les exemples que tu donnes, avec un musulman où on a un crochage avec en voiture avec un noir, mais j'ai entendu dernièrement l'exemple des trois pères qui récemment ont adopté un bébé au Québec, là. Là, supposons que tu fais une publication en ligne en disant que tu n'es pas d'accord avec ça. D'ailleurs, ça va à l'encontre même du droit de la famille. Là, on reconnaît la famille comme étant juste deux parents, donc pas des polyamoureux. Jolin Barrette s'est prononcé là-dessus. Mais là, donc, mettons que moi, Héloïse, je m'en vais dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Ça peut être considéré comme un discours haineux en ligne qui va à l'encontre d'une minorité qui est celle qui sont les trans ou les homosexuels qui décident d'avoir des enfants. Alors là, je deviens homophobe, transphobe. Toutes ces étiquettes qu'on voit là, filer bon train depuis quelques années, galvaudées, qui veulent plus rien dire. Mais ça peut coller finalement beaucoup plus longtemps. Et puis là, ça pourrait se traduire à la justice. Là, je pourrais me retrouver avec un dossier criminel, avec des propos comme ça.
Pas juste si t'es pas d'accord. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit plus que ne pas être d'accord. Tu sais, tu peux signifier ton désaccord, mais si tu le signifies de manière totalement civique, tu sais, tu fais une phrase complètement neutre et régulière, là, où est-ce que tu dis « Moi, je pense que trois hommes ne devraient pas pouvoir adopter un enfant. Ça va à l'encontre de ce qu'est une famille naturelle. » Bon, ça m'étonnerait que tu sois poursuivi pour du discours haineux, OK? Tu peux signifier ton désaccord. Mais par contre, si tu le signifies d'une manière qui est peut-être abrupte ou même violente, sans leur faire des menaces de mort, parce que ça aussi, c'est encadré par le code criminel, sans faire des menaces de mort, mais tu le dis de manière abrupte, puis peut-être même violente, parce que tu es choqué de ça, ben là, puis sans tomber dans les menaces, ben là, à ce moment-là, peut-être que tu peux être poursuivi pour du dénigrement. En fait, on le sait pas, parce qu'il n'y a pas encore de jurisprudence pour cette loi-là. Elle est encore au stade de projet de loi, mais lorsqu'elle sera adoptée, avec le langage qui est inscrit dans la loi, moi, je pense qu'on va pouvoir assister à des dérives autoritaires, du moins.
Mais en fait, moi, ce qui m'inquiète par rapport à cette loi-là, c'est qu'on voit déjà, mettons, on tasse la loi, là. On fait juste regarder les tendances de société qui font en sorte que maintenant, si tu fais juste dire... qu'une femme a un vagin, tu peux être considéré comme transphobe.
Ben, ouais, c'est extrême,
ça devient. Oui, mais c'est ça pareil. Tu sais, on veut avoir un vocabulaire plus inclusif, donc on a parlé de renommer le terme maternité pour enlever le terme maman, parce que ça inclut pas les parents, les couples qui sont deux papas. On a parlé d'arrêter de faire la fête des mères, la fête des pères, de plus accoucher dans une maternité, d'appeler ça département des naissances.
T'as complètement raison.
Alors, on est dans cette mouvance-là de société, et là, je pense que ce qui fait que ça inquiète, c'est qu'on voit qu'on se fait traiter de discours haineux. Tu sais, J.K. Rowling, qui est la femme la plus nuancée, posée, claire, concise, elle fait toujours, selon moi, des interventions que c'est extrêmement intelligente, critique, oui, mais jamais haineuse. Elle est considérée comme une folle, furieuse, déchaînée contre les trans, qui est tellement pleine de haine et de mépris, alors que pour moi, qui est totalement objectif, je regarde ça, je me dis, ben non, elle fait juste nommer des choses qu'elle a le droit de nommer. C'était une vérité il y a 10 ans. Puis là, maintenant, on essaie de nous enfoncer dans la gorge que une femme, c'est juste selon comment on s'identifie. Là, je prends cet exemple-là parce que c'est sûr qu'on vise les groupes qui sont considérés comme des minorités, qui sont comme plus à risque de vivre du harcèlement puis ce genre de choses-là dans la société. Et selon moi, c'est ça qui est inquiétant. C'est parce que là, on se dit, on voit... Tu sais, moi, je me suis fait traiter transphobe vraiment régulièrement, puis je considère vraiment pas être transphobe, mais je considère qu'une femme... Un homme qui s'identifie comme une femme reste un homme. Ça, c'est considéré comme haineux. Tu sais, la ligne est mince.
Ne pas vouloir qu'il ait accès aux toilettes publiques du sexe opposé, ne pas vouloir qu'il puisse se changer avec des fillettes, ne pas vouloir qu'il puisse... tu sais, c'est tout simplement du sens commun. Mais en ce moment, on assiste à une sorte de changement de paradigme où est-ce que ces concepts-là, complètement « woke », ont été définis par des universitaires dans des départements de sociologie, etc., comme étant du discours savant, tu sais, de la théorie des genres, etc. Et on voudrait faire accepter ou enfoncer dans la gorge ce genre d'idéologie-là, ce genre d'idéologie-là au public, au grand public. Mais le grand public, lui, là, il en veut pas de ça. Il en veut pas. Non seulement il en veut pas, mais ils trouvent ça complètement absurde et ridicule parce que ça va à l'encontre du sens commun. Tu sais, lui, il n'a pas été endoctriné là, par des bouquins pendant 3 ans dans son bac en théorie du genre. Là. il regarde ça puis il se dit, ben voyons, je veux dire, c'est contre-naturel.
Exact.
C'est contre-naturel, ça va à l'encontre de la nature, de ce qu'est la nature. T'sais. Fait que c'est sûr que on assiste à des genres de campagnes de sensibilisation à travers les organismes à but non lucratif, à travers les médias, etc. Pourquoi? Parce qu'on veut que cette pensée-là puisse pénétrer la société civile devenir normale,
oui.
En fait. Puis à partir du moment où ça s'est rendu normal, dire le contraire devient excessivement périlleux dans l'optique où on a des lois comme C9, C2, C8.
OK, on va revenir à C2, C8 tout à l'heure. On va continuer C9. Pendant que je faisais mes recherches là-dessus, je me disais, bon, le projet est présenté comme étant lutter contre les discours haineux. Parce que ça dit, dans cette loi-là, que quand tu subis du harcèlement en ligne, exemple, je suis une personne racisée, mettons une noire, puis là, je me fais régulièrement agresser verbalement sur mes réseaux sociaux. Ils ont fait une étude à Ottawa, à l'Université d'Ottawa, et ils ont constaté que ça se traduit généralement dans la vie réelle. Tu vas finir par te faire agresser physiquement dans le réel. Et donc, ils disent que c'est ce genre de crimes-là sont en hausse. On dit là que l'augmentation des crimes haineux selon StatCan de 2022 à 2023 est en augmentation de 32%, ce qui est énorme. Alors, oui. Est-ce qu'il y a lieu à devoir lutter contre le discours haineux? Tu sais, ça c'est comme s'il faut être objectif par rapport à ça. Qu'est-ce que t'en penses?
Moi, ma réponse à ça, Hello, c'est que, en fait, le discours haineux est déjà encadré par le code criminel. Ce que tu me dis là, l'exemple qu'ils ont utilisé là, de la jeune fille noire qui se fait harceler sur les réseaux sociaux, en fait, si elle prend des screenshots, des captures d'écran de ces messages-là qu'elle reçoit, qui est capable d'identifier les auteurs de ces messages-là ou qu'elle les connaît même, à ce moment-là, c'est des preuves qui peuvent servir à déposer des accusations pour harcèlement criminel. C'est du harcèlement criminel.
Oui,
donc,
oui.
Si tu es déjà encadré par le... Si ce type de discours-là est déjà encadré par le code criminel, pourquoi, à ce stade-ci, vouloir faire passer une nouvelle loi, c'est pour la rendre plus stricte, rendre ce discours-là haineux, le réduire de beaucoup, puis le rendre sa condamnation plus facile en rendant la liberté d'expression plus stricte sur ce qui est permis de dire, ce qui est permis de ne pas dire. C'est pour ça aussi qu'ils ont abrogé la nécessité du procureur général du Canada d'approuver les poursuites. C'est qu'ils pensent qu'en facilitant, en réduisant le degré de discours haineux, il va y avoir plus de poursuites et dès lors, ils vont pouvoir le faire par l'entremise de procureurs de la couronne réguliers. Donc, tout ça est excessivement bien conçu, en fait.
Oui, c'est ça. C'est ce qui fait peur, en fait. C'est que l'intention derrière, ça semble être là pour restreindre ce qu'on a le droit de dire dans la sphère publique. Puis, il y a des lois qui ont existé comme ça. Je te fais sortir un peu, mais au Royaume-Uni, il y a ce genre de loi-là qui est mise en place et on a vraiment... Attends un peu, là, j'avais mes chiffres, la quantité de... En 2023, il y a eu 12 183 arrestations sur le Online Safety Act, qui est vraiment le même genre de projet de loi.
Ouais.
Là, on assiste à énormément de gens qui se font arrêter, qui font de la prison pour finalement des crimes qui, il n'y a pas si longtemps que ça, on n'aurait même pas appelé ça un crime. Là. Donc, ça commence à être inquiétant de voir ça dans des pays du premier monde.
Non, c'est ça. En fait, tu as choisi un excellent exemple, Hello, là, c'est-à-dire que l'Angleterre semble être le laboratoire de ce type de législation-là. On voit de plus en plus passer sur X des posts de ressortissants anglais qui se font arrêter qui filment la police, qui sont chez eux et qui viennent les arrêter pour des posts qu'ils ont fait en ligne. Ça devient inquiétant. Quand il y a
vraiment
des gens qui se font arrêter pour des posts en ligne parce qu'ils ont dit qu'ils étaient tannés de l'immigration de masse. Je veux dire, ça fait 10 ans en Angleterre qu'ils reçoivent des bateaux à n'en plus finir sur leur côte.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, c'est une invasion littéralement, l'immigration de masse en Angleterre. Fait que là, ils créent une crise avec ça parce que, tu sais, il faut toujours se dire, Il y a une volonté politique derrière ça. C'est pas vrai que si le gouvernement décidait d'arrêter les bateaux qui rentrent en Angleterre, jour au lendemain, il n'y en aurait plus. C'est pas vrai. Il y en aurait plus, that's it. OK? Ils sont capables de le faire. Ils sont capables. Ils ont une marine. L'Angleterre a déjà été la plus grande marine du monde. Ils sont capables de les arrêter. S'ils les laissent rentrer, c'est qu'il y a une volonté politique derrière ça. Pourquoi ils les laissent rentrer avec une volonté politique derrière ça? Pour créer une crise. Quand tu crées une crise, tu peux apporter ensuite la solution. Donc là, les gens, les citoyens normaux, eux autres, en l'espace de 10 ans, voient leur société complètement changer. La démographie de la société complètement changée.
Le taux de criminalité a augmenté aussi, si je peux me permettre, parce que on a vu aussi des crimes haineux dus au fait qu'il y a de plus en plus d'immigration pas contrôlée.
Ben oui. L'immigration de masse vient avec la criminalité, c'est sûr et certain.
C'est ça.
Partout en Europe, il y a une augmentation de la criminalité. D'ailleurs, au Canada aussi, on l'a observé. En 2021, on était 36 millions d'habitants, presque 37 en fait, 37 millions d'habitants lors du dernier recensement au Canada. En l'espace de 4 ans, on a accueilli 4,5 millions de personnes. On est une population de 4,5 millions de personnes supplémentaires. Mais on sait que les taux de natalité au Canada et au Québec sont en diminution. En fait, le taux de reproduction des générations n'est pas assez important pour que la société se revitalise d'elle-même. Donc, l'augmentation de la population au Canada dans les 4 dernières années provient essentiellement de l'immigration de masse. On parle de 4,5 millions de personnes. Le gouvernement libéral, de 2016 à 2024, a fait entrer en moyenne 1,4 million d'immigrants par année sur notre territoire. Donc, c'est sûr que si tu fais venir des gens qui viennent de pays du tiers-monde où il y a ces gens-là évoluent dans un pays anomique, c'est-à-dire qui n'est pas encadré normativement autant que le serait des sociétés occidentales, ces gens-là vont commettre des crimes tout simplement parce que ça leur paraît normal d'agir comme ça, parce que dans leur pays, il n'y en avait pas de telle loi, tu sais. Donc, c'est d'où l'expression, si tu fais venir le tiers-monde, tu deviens le tiers-monde, tu sais. Mais tout ça dans une optique où c'est correct de prendre des immigrants si ce sont des immigrants économiques, ils vont apporter une plus-value à ta société. C'est correct de prendre des immigrants si ce sont des réfugiés, puis c'est des vrais réfugiés qui vivent des situations périlleuses dans leur pays. Mais l'immigration
c'est pas filtré comme ça.
C'est pas ça, l'immigration de masse. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que la population la critique de plus en plus, cette immigration de masse-là, dans tous les pays occidentaux, parce qu'elle survient simultanément, mais peut-être que l'Europe a 10 ans d'avance sur nous là-dessus, dans tous les pays occidentaux. Donc là, on se retrouve avec des Anglais qui critiquent l'immigration de masse sur les réseaux sociaux et qui se font arrêter. Mm-hmm. Et là, soudainement, au Canada, alors qu'on a un premier ministre qui était le dirigeant de la Banque centrale d'Angleterre, on se retrouve avec des lois qui sont similaires à celles de l'Angleterre où les gens se font arrêter en ligne pour des posts. Mm-hmm. Le voyez-vous, le pattern, là?
Mais non, mais on est juste des complotistes, Julien. Nous, on sait pas de quoi on parle. On est fous. On est dans un délire.
C'est quand même écrit noir sur blanc dans les lois.
C'est comme si c'était un pattern. On dessine un peu, on fait les points, puis là, il reste juste à relier les points ensemble pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Et puis, comme tu dis, on peut voir des sociétés qui l'ont fait avant nous et on voit comment ça vire mal. Tu sais, tantôt, tu as dit, ils ont orchestré une crise en faisant cette immigration massive-là. Pour moi aussi, puis on le voit aux États-Unis, là, on a un président en ce moment qui s'oppose avec...
Ouais, il a fermé les frontières aussi. L'administration Biden disait « Non, c'est impossible de fermer les frontières. Il y a trop de monde qui arrive. » Ils ont fait rentrer à peu près 10 millions d'immigrants en l'espace de 4 ans sous le mandat Biden. Puis c'est pas des immigrants, là. Je veux dire, c'est des migrants, là, tu sais, qui sont... pour lesquels l'ONU a payé, tu sais, pour leur passage, puis c'est des caravanes, puis etc. Là, tu sais, c'est pas des immigrants. Un immigrant, c'est quelqu'un qui choisit de quitter son pays, qui vient légalement dans un autre pays. C'est des migrants illégaux qui ont traversé la frontière avec l'approbation d'entités supranationales, même financées par eux. OK? C'est ce que d'ailleurs Trump a dit dans son discours à l'ONU. Et il l'a fermé. Il l'a fermé, la frontière, Trump. En l'espace de 3 mois, il l'a fermé, la frontière. Il n'y a plus personne qui passe par la frontière nord.
Elle est plus poreuse comme elle l'était, contrairement à la nôtre, ce qui va nous amener à parler de ces deux. Mais veux-tu qu'on rentre dans ces deux tout de suite? Parce qu'on parle de la frontière, il me semble que c'est une bonne façon d'y aller. Ces deux, c'est vraiment ça. C'est pour protéger la frontière, c'est pour lutter contre la crise du fentanyl, c'est pour ce fameux problème. C'est comme si C'est présenté comme sur un plateau d'argent dans un beau paquet cadeau. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire, il est où le problème avec ces deux?
Ben, le problème avec ces deux, c'est que c'est une loi monstre, en fait. Ces deux vont modifier une vingtaine de lois, puis plusieurs règlements. Mais au sein de ces deux, OK, on édicte une loi. Est-ce que je vais retourner dans mes articles que j'ai écrits juste pour te nommer le titre de la loi exactement. OK, donc on édicte une loi.
La loi pour sécuriser la frontière, je pense que ça se peut-tu?
Ben, dans le fond, ces deux s'appellent loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d'autres mesures connexes liées à la sécurité. Ça, c'est le titre de ces deux, OK? Mais à l'intérieur de ces deux, on crée une nouvelle loi qui est imbriquée dans ces deux. Et cette loi-là, elle s'appelle loi sur le soutien en matière d'accès autorisé à de l'information. Et c'est là où ça devient complètement inquiétant. C'est-à-dire que le gouvernement veut pouvoir espionner tout le monde. C'est ça qu'il veut faire. Sous prétexte, toujours, de sécurité. C'est-à-dire que, oui, on comprend qu'il y a du monde qui passe illégalement à la frontière, qui font du trafic humain, du trafic d'armes, puis du trafic de stupéfiants. C'est clair. Mais qu'ils utilisent la loi normale qu'ils ont déjà à l'heure actuelle pour faire de la surveillance, ils l'ont déjà fait. Dans mon article sur ces deux, j'en parle parce que j'avais publié en 2023-2022, un article sur un jeune homme de 24 ans qui avait traversé la frontière canado-américaine avec 248 pistolets. Lui, il a fait ça en 2021. Je me souviens, à l'époque, là, la valeur de ces pistolets-là était identifiée à 6 000 $ pièce. Okay? C'est un énorme crime, là. Ce gars-là s'est pris 5 ans de prison. J'ai couvert en justice sa condamnation. Écoute, il était surveillé. Ses communications étaient surveillées par la GRC au moment où il transférait les armes à feu dans des poches de hockey sur un bobsleigh, sur des traîneaux d'hiver pour passer, parce que c'est le gars qui avait acheté une maison à la frontière canado-américaine qui était à cheval entre les deux pays. Puis il traversait ses armes à feu dans des poches de hockey sur des traîneaux à neige pendant l'hiver.
Wow.
Puis, tu sais, il a utilisé nécessairement son téléphone, il y avait des complices du côté américain, etc. Bon, ses communications étaient observées par la GRC, donc ils ont déjà les moyens en place d'arrêter.
Mais la société dirait, mais on veut qu'il fasse ça, tu sais, on veut qu'il puisse surveiller ceux qui font du trafic d'enfants en ligne. Ton point étant qu'ils sont déjà en train de le faire, donc pourquoi cette loi?
Donc c'est ça, pourquoi cette loi? Ben en fait, là, donc ces deux, ça a été adopté ça a été déposé le 3 juin 2025, est rendu en deuxième lecture. Mm-hmm. Puis le problème vraiment, c'est que c'est la loi qu'elle édicte en son sein. C'est la loi sur le soutien en matière d'accès autorisé à de l'information, parce que cette loi-là, elle va avoir pour but de faciliter l'exercice efficace des personnes autorisées à avoir de l'accès à l'information pour conserver par des fournisseurs de services électroniques, OK, notamment en vue de permettre la communication. Fait qu'en fait, tous les services électroniques que tu utilises, que ce soit un courriel, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit un chat, que ce soit n'importe quoi, ça va pouvoir être espionné par le gouvernement canadien. Et aussi, ils étendent à un grand nombre d'institutions qui ont le droit d'espionner, en fait. Ils peuvent aussi
genre la GRC, mais d'autres institutions.
Ils peuvent aussi installer des logiciels backdoor, hello, OK? Fait que, tu sais, regarde, c'est écrit noir sur blanc dans la loi. La loi prévoit l'extraction et l'organisation de l'information et l'installation, l'utilisation, le fonctionnement, la gestion, l'évaluation, la mise à l'essai et l'entretien de tout dispositif ou équipement pour les personnes autorisées. OK? Qui sont ces personnes autorisées-là? Ouais. Le SCRS, donc ça, c'est normal, c'est les services secrets. La GRC, ça aussi, c'est normal parce que eux autres, ils vont faire des arrestations au niveau national partout sur le territoire. Après ça, ça devient un peu plus insidieux, je dirais même pervers. Tout membre du personnel civil d'une autre force policière et tout agent de la paix. Donc là, la police municipale va pouvoir espionner les réseaux sociaux ou tes communications au même titre que le CRS.
Ils n'ont pas besoin d'un mandat?
Au même titre que le CRS ou la GRC. Attends un petit peu, je ne sais pas s'ils ont besoin d'un mandat.
Excuse-moi, je t'ai envoyé un curveball.
Mais en fait, je pense que oui, il faut qu'il y ait l'autorisation d'un juge de paix. Mais pour obtenir un mandat pour le faire. Le problème, c'est qu'avant, c'était juste le CRS et la GRC. Maintenant, c'est rendu aussi tout agent de la paix, mais plus insidieusement, et c'est là où ça nous pousse à faire une sorte de spéculation qui n'est pas nécessairement si fictive que ça, c'est tout membre du personnel civil d'une autre force policière. Fait que là, c'est quoi? Les forces policières vont-tu se doter d'escouades, des escouades spéciales qui vont observer les réseaux sociaux qui sont des membres civils, qui ne sont pas des agents de la paix et qui vont avoir des mandats pour vérifier les communications de tout un chacun? Parce que c'est pas impossible, parce que c'est ça que la loi permet, en fait.
Je comprends.
La loi le permet, c'est ce qu'on peut en déduire.
Ça ouvre cette porte-là, du moins.
Oui, ça ouvre cette porte-là. Puis, écoute, j'ose croire qu'ils ont encore besoin d'un mandat, là, pour effectuer des opérations de la sorte. Il y a aussi d'autres...
Peuvent ouvrir d'autres courriers, là, puis ce genre
de choses.
Justement,
je m'en allais là. Okay, fait, ils vont pouvoir ouvrir le courrier du monde à leur insu, sans qu'ils sachent. On comprend qu'on veut, avec ça, pouvoir stopper les gens qui transfèrent des colis avec des narcotiques ou des armes à feu, etc., des pièces d'armes à feu pour les monter ensuite en pièces. Mais c'est parce que, oui, on est d'accord avec ça. Le problème, c'est qu'ils vont pouvoir ouvrir le courrier de tout le monde, de tout un chacun, tu sais, de tous les citoyens. C'est que c'est une mesure qui capture l'ensemble de la société et pas uniquement ciblée pour les criminels, tu sais.
Mais tu sais, j'entends déjà dans ma tête le monde dire « Ouais, mais moi, ça me dérange pas, j'ai rien à cacher. » Qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui disent ça?
Ben, tu sais, les gens
on
qui
l'a
disent
entendu
ça,
beaucoup.
En fait, moi j'appelle ça le syndrome de la victime consentante. Tu sais, c'est le syndrome de la victime consentante. C'est que à chaque fois qu'il va se présenter une loi liberticide, ces gens-là vont dire « Mais moi, j'ai rien à cacher. Mais moi, j'ai rien à cacher. Mais moi, j'ai rien à cacher. » Jusqu'au jour où il empiète tellement sur tes libertés que tu as tellement tout accepté, puis que là, au moment où tu viens pour dire non, ben là, tu as tout accepté.
T'as plus aucun droit.
Auparavant, puis l'infrastructure autoritaire ou totalitaire est déjà tout installée, donc tu n'es plus capable de dire non. Tu sais, c'est un peu la grenouille qui bouille dans son eau, tu sais. À un moment donné, il est trop tard, elle est cuite. Donc, ouvrir le courrier des gens, oui, ils vont pouvoir le faire. Bon, en même temps, tu sais, qui utilise le courrier pour des communications, je ne sais pas, moi, problématiques, sulfureuses,
tout se fait en ligne,
whatever, personne. Tu sais, les gens, c'est quoi qu'ils reçoivent par leur courrier? Leurs assurances? Une notification de la SAQ,
une carte de crédit
pour payer,
ou ce genre d'affaires.
Carte de crédit, payer la SAC, ton permis de conduire. OK? Mais c'est parce que moi, je pousse la logique encore plus loin. C'est-à-dire que si, disons, les lois qui sont mises en place sont réellement liberticides puis que les gens se retrouvent à être poursuivis, arrêtés, emprisonnés sur la base de C2 ou C9, même C8, on pourra en parler par après, quels moyens de communication il va leur rester pour organiser une sorte de résistance? La poste. Tu sais, si toi, tu veux organiser une manifestation, tu veux te regrouper en un groupe, mais tu sais que toutes les communications, tu veux te regrouper avec un groupe de résistants, mais tu sais que toutes les communications sont surveillées par le pouvoir en place. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vouloir utiliser un moyen de communication qui n'est pas surveillé, notamment la poste traditionnelle. C'est plus le cas. Si t'es ciblé, ils vont ouvrir ton courrier.
Fait que finalement, ils ont pensé à tout. T'sais, c'est comme s'il n'y a aucune avenue qui pourrait échapper à leur contrôle.
À l'heure actuelle, c'est sous forme de projet de loi. Fait que là, je pense qu'il faut juste essayer de faire en sorte que ces projets de loi-là ne voient jamais le jour parce que le gouvernement est minoritaire, donc il y a une fenêtre d'opportunité. Donc, tout le monde qui nous écoute à l'heure actuelle, aujourd'hui, prenez 2 minutes, écrivez à votre député, allez rencontrer votre député, dites-leur que vous êtes inquiet, que ce soit des députés bloquistes, conservateurs, libéraux, dites-leur que vous êtes inquiet de la tangente que prend le gouvernement libéral par rapport à l'adoption de ces lois-là, que vous considérez qu'elles ont un énorme potentiel liberticide, notamment sur le plan de la liberté d'expression, mais aussi sur le plan de la vie privée, par l'entremise des communications électroniques.
Vraiment. Ben oui, c'est bien que tu apportes une piste de solution parce que, tu sais, c'est bien beau parler de tout ça en ce moment, mais des fois, on a l'impression de ne plus vivre en démocratie, puis finalement, pouvoir exercer notre pouvoir juste une fois ou quatre ans, puis encore là, j'ai des doutes qu'on fait vraiment exercer notre pouvoir. Mais c'est bien de, effectivement, c'est une façon, il y a quelqu'un qui vient de m'écrire dans le chat qui avait à l'œil sa députée dans bloquiste. Donc oui, je pense que c'est important d'être... localement, de faire pression sur les gens proches de vous qui ont un pouvoir au fédéral. Puis faites-vous entendre. Hein. Vous pouvez aussi faire des groupes des causeries. Vous pouvez vous réunir. Vous pouvez, comme, on a une communauté puis il faut se faire entendre. Je pense qu'on devrait pas sous-estimer la capacité de nos voix à s'unir contre ce genre de projet de loi-là. La preuve, c'est que quand on s'est unis à Ottawa en 2022, je continue de penser qu'on a réussi à faire changer les choses. Ils le diront jamais dans les médias, mais je pense qu'on a vu un résultat après.
En fait, quand le pouvoir vient du haut, pour le contrebalancer, c'est par le bas que ça va venir. Et donc, par des associations de la société civile. Donc, les gens normaux, travailleurs, payeurs de taxes,
la classe moyenne,
père de famille, mère de famille, des gens qui se sentent opprimés par le gouvernement parce qu'ils sentent que puis pas juste ils sentent, ils vivent, ils savent. Tu sais, je veux dire, pendant la pandémie, c'était extrême. Les gens n'étaient plus capables. Là, nos libertés étaient opprimées. On était dans un gouvernement autoritaire complètement. T'sais. Écoute, c'est capoté. On a eu des codes de couleur pour pouvoir circuler d'une région à une autre. Excuse-moi, mais la liberté de circulation est garantie par la Charte canadienne des droits et libertés. OK. Ça ne les a pas empêchés de passer des lois liberticides.
Saisir des comptes de banque.
Il y a tellement de choses
qui ont été à l'encontre de nos droits. Puis moi, ce qui m'a le plus épaté là-dedans, c'est que la majorité semblait d'accord. Tu disais comme, faites-le, parce que mon Dieu, on panique. C'était tellement comme un vent d'hystérie que les gens s'en remettaient à ceux qui avaient le pouvoir. Puis on les a vus mais faire des décisions qui étaient tellement mal éclairées.
C'est pour ça que je te parlais de la propagande quotidienne et banale en début d'entrevue. C'est à ça qu'elle sert. Dans le fond, c'est Noam Chomsky qui a écrit le livre « La fabrication du consentement ». C'est très ça. T'sais, les médias traditionnels, ils vont fabriquer un sujet qui va évoluer en société de manière très indocile. Hein? Très docile, pardon.
Tu te trompes avec ton média.
C'est ça. Qui va fonctionner en société de manière très docile, obéissant. Parce que c'est l'opinion du groupe, en fait. Hein? C'est le Ben Wagon effect. C'est l'opinion du groupe, c'est la majorité. On veut pas sortir du lot, on veut pas se faire étiqueter. Donc, on va avec le courant, tu sais, go with the flow. Mais en fait, non, c'est la propagande. Puis quand vous vous y soumettez, en fait, vous perdez de vos libertés. Et
je pense que la majorité des gens qui me suivent, Dieu merci, ne sont pas dans cette mouvance-là. Mais j'essaie toujours de parler à ceux qui vont suivre un peu le narratif puis les amener à se poser des questions. Je t'avais dit j'ouvrirais avec la vidéo d'Emmanuel Bilodeau. Je vais la mettre à part, mais cette vidéo, elle m'a vraiment... C'est une amie qui me l'a envoyée, puis c'est Emmanuel Bilodeau qui se filme à dire comment il est heureux d'être au Québec parce que on pourrait avoir peur de ce qu'on dit en ligne, mais on n'a pas besoin ici, on est bien. On pourrait avoir une liberté d'expression brimée, mais on n'est pas comme ça ici au Québec. C'est le paradis sur Terre de la liberté d'expression. Je me disais, mais mon Dieu, mais dans quelle... Mais sur quelle planète habite-t-il? Puis je me dis, je pense qu'il n'est pas le seul à être sur une autre planète. Il est sur la planète Metaverse, là, tu sais, comme il est dans un univers créé par les médias qui n'est pas du tout la réalité. Il n'est pas au courant des projets de loi qui se font déposer. Il va sûrement pas les lire comme toi puis moi on fait. Il n'est pas au courant de ce qui se passe, qu'il ne fait pas les manchettes ou qu'il n'est pas dans la presse ou le Devoir ou le Journal de Montréal, mais je pense pas que les artistes lisent beaucoup le Journal de Montréal. Donc, si ça n'est pas dans les médias, ça n'existe pas. Donc, il n'y a aucun danger. Le seul danger qui existe, il vit au sud de la frontière, c'est la grosse citrouille totalitaire nazie. Puis tout le reste, ici, c'est peace and love, tout va bien, on est-tu bien au Canada? Fait que là, tu sais, je pense qu'il est temps que les gens prennent conscience du problème qui se passe ici. Notre liberté d'expression, ça fait longtemps qu'elle est en danger. Je poursuis YouTube parce que j'ai été censurée pendant les années de COVID et notre recours collectif a été approuvé par un juge. Donc déjà, notre dossier est assez fort. Merci. Et il y a de plus en plus, c'est Google reconnaît qu'ils ont censuré des comptes. Donc on est dans... Zuckerberg a reconnu qu'il y avait de la pression des gouvernements de...
Tout à fait. Puis aussi, il y a les journalistes indépendants américains, Michael Schellenberger, ainsi que Matt Taibbi, qui ont fait d'excellents articles sur les Twitter Files avant que ça devienne X, en fait, que ce soit Elon Musk qui rachète ça, qui rétablisse la liberté d'expression sur cette plateforme-là.
Exact.
Ces gens-là ont eu accès au courriel des dirigeants et ils ont fait la démonstration que des dirigeants de l'entreprise Twitter, ils ont fait la démonstration que Twitter collaborait avec le FBI, Homeland Security, etc., les services secrets, même il y avait des gens présents aux réunions entre les hauts dirigeants des firmes de tech. Donc, on parle de tous les réseaux sociaux, on parle de Google, etc., des hauts dirigeants de ces firmes-là avec le FBI, avec la CIA, avec le Homeland Security. Donc, c'était dans une optique de censurer les réseaux sociaux.
C'est ça. Et de faire en sorte que tout le monde ait sensiblement la même mouvance, la même idéologie. Là, c'était vraiment beaucoup plus de
droite. C'est capoté,
de
gros. Tu réalises ce que je viens de dire là? Tu sais, c'est capoté, là.
Mais moi, ce qui me fait plus capoter, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé des Twitter Files. T'sais, moi, j'en ai parlé avec Jason Bajadon, on en a parlé quand même souvent, mais on n'est pas, on fait pas le téléjournal de 18 heures, là.
C'est la propagande quotidienne. C'est pour ça que je disais aussi en début d'entrevue que ce qu'on ne dit pas, ce qu'on passe sous silence, est aussi important que ce qu'on va dire. Parce que ça nous en dit aussi long sur la personne qu'on a en face de nous, ce qu'elle ne dit pas que ce qu'elle nous dit. Donc, si ces gens-là veulent passer sous silence les Twitter Files, c'est qu'il y a une raison à ça.
Exactement. Et de là, l'importance de comprendre vraiment ce qui s'est passé dans les dernières années. Encore la semaine dernière, on m'écrivait « Hey, t'en es pas encore revenu du COVID? » Je suis comme « Ben non, j'ai pas l'intention d'en revenir. » Parce que, justement, ce COVID show-là nous a montré les intentions des dirigeants de nous faire glisser vers, là, les gens écrivent beaucoup dans les commentaires, dans le chat, la fameuse identité numérique. Ça s'est comme installé avec... Ça a été chaotique. Mais on s'en va vers ça. Et puis en France, en Europe, tu m'en parlais off-cam, il y a une mouvance vers l'identité numérique. Donc, on est toujours... C'est toute une question de contrôle. C'est d'avoir un contrôle assez suprême sur la population, puis les amener à vraiment... Comme un peu ce qui se passe en Chine. C'est comme si la Chine était en avance sur ce qui s'en vient ici. Et quand on regarde ce qui se passe en Chine, ben il y a des caméras... Mon chum a tourné en Chine plus tôt dans l'année, puis tu sais, il disait, il y a des caméras partout, reconnaissance faciale partout. Puis tu sais, t'es pas dans une méga grosse ville. Mais c'est là-bas, c'est une petite ville, c'est genre 3 millions d'habitants, là. Fait qu'il... Mais quand même, tu sais, il disait, c'est partout. Je vois des caméras partout. Puis les gens sont habitués de vivre comme ça, fait qu'ils posent plus de questions. Tant que tu marches d'un rang, tout va bien. Mais le jour que tu essaies de faire un pied à côté du rang, ben là, ça risque d'aller très, très mal pour toi. Tu sais, puis
oui,
on
puis
le
c'est
voit.
Aussi, ce qui est inquiétant, c'est quand cette situation-là est devenue normale, elle est normalisée, puis elle s'intègre dans les consciences à l'échelle des générations. Tu sais, nous autres, on vit dans un monde en transition. En fait, on a vécu les années 80, 90, 2000. Bon, on sait c'est quoi la liberté, OK? Mais si ce type de mesure-là est instaurée au Canada ou dans les pays de l'Occident, les générations qui suivent vont considérer que c'est ça la normalité. Ils vont pas chercher à se rebeller parce qu'ils vont penser que c'est tout à fait légitime que ce soit comme ça. Or, non, c'est à nous, dans cette période charnière-là, de dire non, c'est impossible. Mais, tu sais, je veux revenir à ce que tu disais aussi sur l'identité numérique. C'est-à-dire que c'est un objectif de la caste globaliste d'imposer l'identité numérique, parce que si tu veux établir un contrôle technocratique sur l'ensemble de la société, tu dois avoir le plus d'informations pour pouvoir savoir à qui tu as affaire et ensuite pouvoir contrôler leurs déplacements. Donc ça, c'est vieux comme le monde. C'est la biopolitique de Michel Foucault, c'est-à-dire que tu veux contrôler la circulation des biens et des marchandises, OK, mais tu veux contrôler la circulation aussi des individus. Donc, pendant la COVID, l'objectif ultime, moi, je pense que c'était d'instaurer l'identité numérique. On était parti pour ça aussi, parce qu'il y en avait fait l'annonce. Il y a des articles dans Le Soleil, comme quoi que le ministre... c'était qui déjà? C'était le ministre de la CAQ, là. Éric Kerr avait son projet d'identité numérique, puis finalement, ça a été abandonné. Donc, en fait, c'est de créer une crise pour ensuite y apporter une solution. C'est tout le temps ça, OK? Oui. Donc, on fomente la crise, on y apporte une solution. Donc, là, ils ont échoué avec le COVID pour instaurer l'identité numérique. Les globalistes n'ont pas pu instaurer l'identité numérique avec le COVID. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils utilisent? L'immigration de masse. C'est la crise subséquente. Donc là,
La crise environnementale aussi qui va sûrement suivre bientôt, là.
Oui, on peut le déduire. Mm-hmm. Donc, ça, l'identité numérique va être adoptée en Angleterre. Ça l'est déjà à l'heure actuelle. Il y a eu des posts, des tweets de ça sur X de Keir Starmer, qui est le premier ministre de l'Angleterre, qui le dit directement, tout le monde qui veut travailler en Angleterre de manière légale va devoir avoir une identité numérique.
Sérieux?
Oui. Ensuite, je pense que c'est Christine Lagarde.
Mais c'est pas passé, là.
C'est pas encore passé, mais ça s'en vient à vitesse grand V, là. Tu sais, puis Christine Lagarde, qui est... c'est-tu la dirigeante du Fonds monétaire international? Me semble que ça, en tout cas, est à la tête d'une entité européenne, là. C'est pas Ursula von der Leyen, là, en tout cas. Peut-être que je me trompe entre les deux, mais elle aussi, Christine Lagarde, a souvent parlé de l'identité numérique comme de quoi que ça s'en venait en Europe, de manière généralisée, au mois d'octobre. Ils sont partis pour l'adopter.
Genre demain.
Mais ça fait 6 mois qu'elle dit ça, que ça s'en vient au mois d'octobre, tu sais.
Elle nous prépare psychologiquement, mais est-ce que ça va se faire au mois d'octobre, tu crois?
Ben, je sais pas, en fait. Je sais pas, en fait, si ça va se faire au mois d'octobre. Je sais qu'en Angleterre, ça va se faire très, très rapidement. C'est parti pour être adopté. Mais est-ce que le reste de l'Europe va suivre? Tu sais, l'Europe de l'Est, l'Europe continentale résiste en ce moment au mouvement globaliste. C'est pour ça que moi, j'ai intitulé une section de mon média « Globaliste versus réaliste ». C'est-à-dire que les réalistes, c'est des gens qui ont l'identité nationale à cœur. C'est des gens qui ne veulent pas embarquer dans la gouvernance globale, mais qui préfèrent la souveraineté de leur nation en collaboration avec les autres nations, nécessairement, parce que tu sais, tu peux pas faire du commerce de manière isolée, là, à l'intérieur de ton pays. Non, ils vont collaborer, ils vont faire du commerce. Mais les décisions qui sont importantes pour le peuple ne seront pas prises par des entités supranationales, comme le Parlement européen, par exemple, qui démettent sa souveraineté certaines nations européennes, mais vont être prises par le peuple qui va mettre des dirigeants à sa tête. Donc, on le voit en Hongrie avec Viktor Orban, on le voit aussi avec, en Bulgarie, je pense, avec Robert Fico. La Pologne, bien qu'elle fasse partie de l'OTAN et qu'elle soit, disons, une alliée très, très, très proche des Américains en ce qui concerne la guerre en Ukraine, parce que c'est les Américains qui, essentiellement, font vivre cette guerre-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Américains arrêtent d'envoyer du financement et des armes, l'Ukraine tombe en quelques jours, là. La Pologne collabore de très près avec les Américains en Ukraine. Or, étrangement, les Polonais sont pas complètement globalistes. C'est-à-dire qu'ils ont des mesures essentiellement nationalistes, notamment l'immigration de masse. Ça passe pas chez eux, il n'y en a pas d'immigration de masse. Les frontières sont fermées.
Dirais-tu que les Américains sont globalistes? Parce que
Ça dépend qui est au pouvoir. Ça dépend des factions. Tu as des néolibérales, tu as des néoconservateurs. C'est sûr que au sein de l'Empire américain, tu as des gens qui sont globalistes complètement. L'ancienne administration Biden était des globalistes.
À fond. Mais dirais-tu que l'administration Trump est globaliste?
Non, absolument pas. Okay. En fait, ils font tout pour nuire aux globalistes. Ils font tout pour nuire aux globalistes. Écoute, tu le vois dans son discours à l'ONU, quand Trump parle de nationalisme économique, quand Trump parle d'identité nationale, ça, ça rend maudit les globalistes, là. Ça, c'est le genre d'affaires qu'ils n'aiment pas parce que ça
va... C'est pour ça qu'ils ont coupé son téléprompteur.
Peut-être. Mais ça va complètement à l'encontre de leur idéologie, en fait.
Absolument. Je voulais juste le clarifier parce que, bon, on sait qu'ils sont, oui, peut-être proches de la Pologne, mais selon moi, on peut reprocher bien des choses à l'administration Trump, mais au moins là-dessus, ils semblent tracer une ligne. Tu sais, comme tu dis, ils ont vraiment fermé les frontières, ils ont réglé des problèmes qui avaient été établis, en tout cas, ou continués avec Biden. Mais bref, on n'est pas là pour parler des États-Unis. J'aimerais ça qu'on conclue sur ce qui se passe avec nos lois. Tu voulais survoler C8. Est-ce que tu veux qu'on fasse juste un petit survol de C8 puis on pourra
On peut faire
terminer?
Ça. En fait, OK, C8, je vais aller dans mes articles. Puis j'invite tout le monde aussi à aller sur mon site Internet, dans la barre de recherche, si vous voulez vous informer un peu plus sur ces projets de loi-là. Vous avez juste à écrire C-2. Enter, C-8, Enter, C-9, Enter. J'ai des articles qui sont assez complets sur l'ensemble de ces lois-là. OK. Donc, C-8, c'est la loi qui s'intitule « Loi sur la cybersécurité modifiant la loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois ». En fait, ce que cette loi-là va permettre, c'est de censurer les médias sociaux, les réseaux sociaux, de manière généralisée. Par exemple, le gouvernement du Canada pourrait décider d'interdire X au Canada, ou de manière ciblée, pourrait dire, bon, ben toi, tu es un utilisateur dangereux des réseaux sociaux. Dès lors, on demande à ton fournisseur de services de télécommunication, à savoir Bell, Rogers, TELUS, Vidéotron, de couper ton signal Internet ou de bloquer ton adresse IP pour l'utilisation des réseaux sociaux. C'est vers ça que s'en va le projet de loi C-8. Donc, ils vont le faire sous la base... sous le prétexte qu'il y aurait des menaces d'ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation de l'environnement démocratique au Canada. C'est quand même excessivement inquiétant.
Tout à fait. Ben, ça ressemble à toutes les autres, finalement. C'est comme s'il y a une mouvance de lois qui se ressemblent toutes.
Ben oui, tu sais, puis le problème avec ça, ben, tu sais, c'est-à-dire que C8, c'est la loi qui va permettre de bloquer les utilisateurs des réseaux sociaux ou de bannir littéralement certains réseaux sociaux. On sait que X va à l'encontre de l'idéologie globaliste, tu sais, parce qu'elle permet une certaine forme de liberté d'expression, notamment avec Elon Musk, qui a pris position, tu sais, dans ce combat-là réaliste versus globaliste. Elon Musk a pris position. Il est dans le camp Trump. Il est avec les réalistes.
Ils sont à chicane, mais quand même, ils s'opposent à cette idéologie.
Ils sont serrés la main dernièrement, mais ils ont des affinités idéologiques qui font en sorte qu'ils veulent résister aux globalistes. Donc, la plateforme X est une plateforme qui permet une liberté d'expression qui va à l'encontre de l'idéologie globaliste. Mais par contre, s'ils décident de la bloquer, ben là, tu t'en vas où? Tu t'en vas sur Facebook, qui censure le discours, tu t'en vas sur Instagram, où tu vas, tu sais?
True Social.
C'est ça. Pardon?
True Social, les médias sociaux.
Oui, c'est ça, ils vont le bannir aussi.
Ils vont sûrement le bannir, oui.
C'est ça que C8 permet de faire, bannir les réseaux sociaux à grande échelle ou de manière ciblée pour certains utilisateurs. Puis là, ils peuvent imposer des conditions sur l'utilisation des produits, OK, qui sont promus par les services de télécommunication. Fait que, par exemple, ils pourraient dire, imposer des conditions, ça pourrait être, bon, ben pour les mineurs, là, les moins de 18 ans, on bloque tous les réseaux sociaux sur leur téléphone à partir de 18 heures le soir.
Ils pourraient faire ça.
C'est pas impossible.
Ce que je trouve particulièrement écoutant, c'est que je me dis, il y a des parents qui vont... En tout cas, il y a sûrement du monde qui vont trouver que c'est correct. Tu sais, c'est tout le temps ça. C'est que c'est présenté comme pour protéger la population, protéger les jeunes, faire en sorte... Tu sais, tantôt, je lisais un article, puis c'était Léa Clermont-Dion qui était interviewée par rapport à la mouvance des tradwives, là, tu sais, les femmes qui veulent rester à la maison. Puis là, elle disait qu'il y avait de plus en plus de femmes qui faisaient ce choix-là, ce qui est tout à fait louable, qu'elles fassent ce qu'elles veulent. Mais là, si elles partent une chaîne, si elles sont sur les réseaux sociaux puis qu'elles commencent à partager, promouvoir leur mode de vie où elles ont une petite ferme, puis qu'ils font comme ils vont ramasser des œufs des poules le matin. Ça, là, elle disait que c'était là que c'était dangereux parce que ça tirait la couverte, finalement, sur la droite. Puis je me disais, si j'avais Léa, je l'ai déjà invitée d'ailleurs, elle n'a pas accepté mon invitation, mais j'aimerais vraiment ça qu'on m'explique, oui, à grande surprise, pourquoi, du moment que ça tire pas du côté d'une idéologie de gauche, c'est dangereux. T'sais, pourtant, ça prend la gauche, la droite. Moi, j'ai mes deux mains, puis je ne considère pas qu'il y en a une qui est plus dangereuse que l'autre. Mais là, c'est comme dans la société, tout ce qui est de gauche, c'est extraordinaire, c'est valeureux, c'est vertueux. Puis tout ce qui est de droite, c'est Satan. C'est comme, il n'y a pas de juste milieu, c'est pas possible. Puis je t'écoute parler, puis là, c'est encore ça. C'est comme si cette mouvance globaliste est très gauche radicale, puis tout ce qui nous amène un peu à droite ou même centre, finalement, on a radicalisé le centre, tout ce qui voudrait juste ramener ça dans un équilibre, bien là, on se fait dire finalement que c'est mal. X pourrait être... On a parlé en Europe pendant la crise COVID de bannir X, là, tu sais, quand Trump a acheté la plateforme, on l'a menacé à répétition. Ah oui, excuse-moi, c'est ça que je voulais dire. On a menacé à répétition qu'on allait comme interdire X s'il rentrait pas dans les rangs une bonne fois pour toutes, ce qu'il n'a pas fait. À ma connaissance, ils n'ont pas banni X. Je sais pas s'ils l'ont fait, mais on a quand même des lois ici où ça fait que, mettons, on peut plus partager. Il y a comme une guéguerre. Là, on peut plus mettre des articles de, mettons, la presse sur Facebook à cause de certaines lois qui ont été passées au fédéral. Donc là, c'est comme si on voit que ça devient... Ils essaient de restreindre de plus en plus ce qui se passe en ligne parce que tout est rendu en ligne. Mm-hmm. Donc là, tu sais, il est vraiment... C'était encore un peu le Far West. Puis l'intelligence artificielle qui arrive par-dessus ça, on ne rentrera pas là-dedans.
Ça va être capoté.
C'est vraiment assez hallucinant de voir ça
les
aller.
Les lois dont on vient de parler aujourd'hui, couplées à l'intelligence artificielle et son potentiel de d'opérationnalisation, devient absolument épeurant parce que il ne va que suffire d'un claquement de doigts avec ces lois-là, plus l'intelligence artificielle, pour basculer dans le totalitarisme.
Il y a quelqu'un qui vient d'écrire dans les commentaires, puis je veux que tu répondes à ça, parce que, OK, je le mets. Je trouve ça responsable, c'est peut-être, je sais pas si c'est du sarcasme, que le gouvernement protège des pièges de l'Internet. Veux-tu répondre à ça?
Ouais, ben d'accord. Alors, on va souhaiter bonne chance à cet auditeur. Nous lui souhaitons bonne chance. Je veux dire, tu sais... Non, c'est exactement, tu sais, répondre à ça, je veux dire, c'est la discussion qu'on vient d'avoir, toute l'heure qu'on vient d'avoir, c'est exactement ce qu'on veut expliquer. C'est qu'à partir du moment où, ben oui, on peut y répondre, c'est-à-dire que c'est des principes qui sont associés aux valeurs et aux jugements de chaque personne. C'est-à-dire que si tu te démets de ta liberté, de ta responsabilité individuelle en tant que citoyen et que tu la remets dans les mains de l'État, à partir de ce moment-là, tu perds ton libre arbitre. Tu perds ton libre arbitre pour pouvoir agir comme un citoyen libre. C'est pas compliqué. Mais si tu le fais, je sais pas moi, pour l'ensemble des activités de la société, quel libre arbitre est reste, tu sais? Je veux dire, l'État est présent là, aujourd'hui là, dans l'ensemble des sphères de la société de manière proéminente. Là, c'est incroyable. Ouais. Incroyable. Absolument. Ça prend un permis pour faire n'importe quoi, pour tout faire. On est les plus taxés en Amérique du Nord. À partir du moment où tu gagnes 100 000 piastres et plus, c'est 53% de ton impôt, de ton revenu qui est imposé.
En plus.
La corruption, on parle de services publics. En fait, les services publics sont là pour que le monde s'en mette dans les poches. Là. C'est les amis du pouvoir qui donnent des contrats.
On le vit avec Bombardier. C'est sans arrêt, les exemples.
C'est sans arrêt. C'est ça que ça fait le capitalisme d'État, en fait. Mais pour revenir à la question de cet individu-là, de cette personne-là dans le chat, tu as le choix. Tu peux décider de soumettre et de déléguer ta souveraineté individuelle, ta responsabilité individuelle, ton libre arbitre à l'État pour qu'il en prenne charge. Fait que là, tu lui donnes le contrôle sur tes communications numériques, tu lui donnes le contrôle sur le droit ou non de fréquenter tel ou tel réseau social, tu lui donnes le contrôle aussi sur le degré de liberté d'expression que tu peux exercer par l'entremise du discours haineux avec C9. Au lieu de dire en tant qu'individu, moi je vais me responsabiliser, je vais prendre connaissance de ces lois-là, je vais essayer de naviguer à l'intérieur de ce qui est permis par la loi, là tu remets tout ça entre les mains de l'État. L'État il te demande même pas ta permission, il passe ces lois-là, puis il veut censurer, il veut contrôler, c'est clair.
Puis il fait, en fait, je me souviens, pendant la crise COVID, on a su que finalement nos téléphones avaient tous été sous surveillance. Je sais pas si tu te souviens, là, à un moment donné, il y avait comme... Ça avait fini par sortir. Puis tu sais, il me semble, les chiffres, c'était finalement pas mal tout le monde qui a un cellulaire, là. Tu sais, c'était, je me rappelle plus exactement des chiffres, mais c'était l'entièreté du Canada qui avait été sous surveillance. Puis tu sais, à ce moment-là, je me rappelle, on communiquait juste sur Signal, toi puis moi, parce qu'on était conscients qu'on... À ce moment-là, il y avait comme un stress de nos échanges parce qu'on était vraiment en désaccord avec les mesures totalitaires de nos gouvernements pendant la crise sanitaire. Et on faisait attention, mais là, tu sais, c'est comme si on a un peu... Bon, on a tous arrêté d'utiliser Signal. On s'est dit, bon, c'est comme plus nécessaire. On a recommencé à se parler sur Messenger ou sur X. Mais finalement, on finit par se dire... C'est comme s'il faut tout le temps être vigilant, il faut tout le temps être conscient que le gouvernement a déjà fait ça, ils l'ont fait dans le passé. Donc, c'est comme si, des fois, je me dis pourquoi ils se font chier à passer des lois alors qu'ils nous ont montré que les lois, ils les respectent pas, puis finalement, ils font un peu ce qu'ils veulent. Je sais pas si tu partages mon opinion là-dessus, mais tu sais, s'ils l'ont fait dans les dernières années, ils peuvent bien faire encore. On était en état d'urgence, c'est peut-être ça la différence.
Ouais, je sais pas. En fait, j'ai pas eu cette information-là comme quoi tous les téléphones cellulaires du Canada avaient été surveillés. Écoute, tu me dis ça, je serais même pas surpris que ça serait vrai. Je serais
mais
pas
ça
surpris.
Avait sorti dans un média genre Radio Cannes, là, tu sais, c'était,
ah ouais.
C'était quand même...
Ah ouais.
Oui, ça, c'est ça, okay. Ça avait quand même... ça avait
écoute,
fini par...
J'ai pas pris connaissance de cette information-là, mais écoute,
j'essaierai de la retrouver.
C'est inquiétant. C'est inquiétant pour la vie privée. C'est inquiétant, tu sais, je veux dire, pourquoi faire ça, là? Les gens, qu'est-ce qui se passait, là? Ils allaient aller dans un party chez leurs voisins, puis là, on voulait faire débarquer la police, c'est quoi, tu sais? C'est quoi
je l'affaire? Je pense que oui, c'est ça, mais... c'est de savoir les cellulaires étaient où, comme ça, puis savoir s'il y avait des rassemblements illégaux, tu sais, s'il y a comme 8 cellulaires ensemble.
C'est fou raide. Tu sais, il faut se souvenir la phrase de Nietzsche, là, « L'État est le plus froid des monstres froids ». Ça reste vrai encore au 21e siècle. Tu sais, tous les philosophes qui nous ont mis en garde contre le pouvoir de l'État, tu sais, pourquoi? Tu sais, moi, je lisais ça, j'avais 20 ans, 22 ans, 25 ans, je lisais ça, j'étais là, mais voyons, mais tu sais, on vit dans des sociétés libres et démocratiques, l'État est là, il n'y a pas de problème, tu sais. On en prend conscience aujourd'hui, tu sais, sur la liberté de John Stuart Mill, etc. On en prend conscience aujourd'hui, tu sais, on le vit. C'est pour ça que je le dis, on est dans une période de transition, dans une période charnière. Ce qu'on vit, nous autres, aujourd'hui, avec l'identité numérique, les lois qui sont adoptées, C2, C9, C8, le contrôle... OK, que le gouvernement va s'accaparer sur nos vies par l'entremise de ces lois-là, puis la liberté qu'on va lui déléguer, qu'on a à l'heure actuelle, qu'on aura pu plus tard, ça, c'est excessivement inquiétant, tu sais.
Oui, puis on a vu, comme tu parlais de la grenouille tantôt, c'est un processus qui est déjà entamé depuis plusieurs années, qu'on perd, on perd, on perd de nos libertés fondamentales. On se fait censurer, on se fait restreindre, on commet des crimes de la pensée si on pense pas comme il faut au bon moment, publiquement. Alors, on peut perdre notre emploi. J'en connais qui ont perdu. Je parle régulièrement de Jérémy Filosa qui a été suspendu pour avoir dit à la radio 98.5 qu'il croyait plus que l'homme avait marché sur la Lune. C'est quand même grave de perdre sa job à cause d'une opinion que tu dis, là. Même si le monde peut trouver ça un peu farfelu.
Ouais.
De là à perdre son emploi, c'est quand même, on est rendu
là. Elon Musk a tweeté récemment que pour une de ses fusées, pour se rendre sur la Lune, ça prendrait 8 refills de carburant, 8 rechargements de carburant. Une de ses fusées, là, qui sont les fusées les plus avancées
qu'on
a à l'heure actuelle. Mais par contre, la technologie d'il y a 50 ou 60 ans pouvait aller sur la Lune sans problème. Mais celle d'Elon Musk aujourd'hui aurait besoin d'être rechargée 8 fois. OK.
Mais c'est ça. Non, mais.
Laissez ça mijoter à l'intérieur de vous, tu sais.
Juste, c'est ça. Continue d'exercer son esprit critique puis se permettre de remettre en question même des choses qu'on considérait comme établies, fondées. Il faut quand même être capable de rester ouvert. Écoute, ça a été super passionnant de te parler, Julien. Tout le monde voudrait savoir où te trouver. Veux-tu plugger un peu, c'est où qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Tu étais rendu un peu inactif, mais là, je t'ai vu que tu étais de retour sur X.
Ben, en fait, c'est le seul réseau social que j'utilise, là, X. Peut-être que j'utiliserais Telegram, à la limite, là, dans un avenir rapproché, parce que c'est le seul autre réseau social que j'identifie comme étant pro-liberté d'expression.
Ouais.
Pour les autres, je les utilise pas. Donc, si vous voulez me trouver sur X, c'est Julien Garon-Carrier ou @indocilemedia. Ça, c'est pour mon compte X. Sinon, vous pouvez vous rendre directement sur mon site web, indocilemedia.com.
Pour aller lire les articles que tu fais. Écoute, on va refaire ça avec plaisir si tu as envie de revenir maintenant que tu t'es équipé d'un bon micro.
Tout à fait.
Il manque juste une bonne lumière, là, puis l'affaire va être ketchup.
Exact.
Merci pour tout, Julien. C'était vraiment super intéressant de te parler. On se refait ça, puis ben merci à tout le monde d'avoir été en direct avec nous. Le live, maintenant qui est terminé, va se retrouver en rediffusion, disponible sur toutes les plateformes. Je vous souhaite une excellente journée à tous.
Merci,
bye bye,
hello, au plaisir.
Merci, bye bye.
Au revoir.